d'emploi. Mode d'emploi.
Bienvenue sur Mode d'emploi. C'est dans ce sujet de rotation, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Des invités variés, issus du monde du travail, parlent de leur expérience, de leur lutte, de leur résistance, de comment ils arrivent à définir eux-mêmes ce qu'est un bon travail dans de bonnes conditions et comment ils réussissent à l'imposer. C'est un peu... c'est vrai que je fais un peu du... de la surenchère, mais là, le sujet de l'émission l'exige un petit peu puisque on vient fêter une victoire. Souvenez-vous, nous avions reçu dans une précédente émission, les camarades des hôtels Ibis, notamment de l'Ibis de Clichy, Batignolles, c'est ça, de l'Ibis de Batignolles, en grève donc pour leur intégration dans les services de l'hôtel et non pas chez un sous-traitant. Parce qu'on avait vu, on avait détaillé ça à cette époque-là, que ce travail en sous-traitance générait toute une série de conditions dégradées pour travailler, de baisse de rémunération, de précarité accrue. Toutes ces questions-là ne pouvaient être réglées que par une attaque frontale contre la précarité et la sous-traitance généralisée. Et donc, on avait vraiment promis, on était toute la radio, en fait, était derrière vous, parce qu'il me semble que vous êtes passé dans d'autres émissions. On a essayé de vous faire une pub d'enfer et on avait promis à cette émission, je me rappelle très bien, qu'à la victoire, vous seriez réinvité. Donc, nous vous réinvitons. Je laisse le public en tirer les conclusions sur l'issue. Et je vais... Et Gilles, qui est donc très curieux de savoir un peu tout ce qui a été obtenu, parce qu'il veut toujours un peu les chiffres et le fond des informations. Donc, qu'est-ce qui a été obtenu à la signature du protocole de fin de conflit ? Gilles, vas-y, pose toutes les questions que tu veux.
Oui, bonjour à tous. Donc, Claude, tu pourrais peut-être m'expliquer un petit peu comment s'est fait ces dernières semaines, comment le combat a été gagné et exactement ce que vous avez obtenu dans la réalité, en fait, du
groupe. Alors, étant le seul homme du groupe, je passe la parole aux femmes.
Très bien.
À toi, Cisérie. Qu'est-ce que vous avez obtenu Présentez-vous et puis ensuite, on vous écoute sur tous les gains que vous avez, vous commencez à encaisser.
Bonsoir à tout le monde. Et là, on peut pas dire les grévistes de l'hôtel Ibis, les Batignolles. Maintenant, c'est les victorieuses femmes de l'hôtel Ibis, les Batignolles.
D'accord. Alors, donc, vous êtes les victorieuses femmes de l'hôtel Ibis des Batignolles.
Exactement.
Toutes les revendications,
ce que nous avons eu déjà qui était vraiment, on disait, où on se plaignait beaucoup, les cadences qui étaient infernales, mais c'est la baisse de cadence. Au lieu de 3 chambres et demie de l'heure, nous avons obtenu 3 chambres de l'heure. 3 chambres pour les grandes chambres et pour les 3 chambres de l'heure pour les petites chambres et 2 chambres pour les grandes, 2 chambres de l'heure pour les grandes chambres. On a obtenu aussi prime de nourriture qui est à 7,30 € par jour. Donc, c'est-à-dire le mois, 150 € de plus. Ça, c'est magnifique. On a aussi obtenu le changement des qualifications, c'est-à-dire maintenant, le travail de la femme de chambre sera qualifié et reconnu correctement. On a aussi obtenu 7 de nos collègues qui étaient en temps partiel, qui sont passés en temps complet. On a aussi obtenu 2 CDD qui sont passés en CDI avec un contrat de 5 heures. On a aussi obtenu...
Avec une reprise de leur ancienneté par ailleurs.
Tu peux m'aider, hein. Tu sais, c'est la...
Avec reprise d'ancienneté et on a obtenu aussi l'arrêt des mutations. Parce qu'en fait, c'était le goutte d'eau qui a débordé, voilà, et qui avait débordé. Donc, on a eu aussi l'arrêt. Donc là, on ne peut plus muter nos 13 collègues qui sont en restriction maladie. Parce qu'en fait, c'était ça, le vrai noyau. Voilà, là aussi, on a obtenu l'arrêt. Parce qu'avant, c'était quand on veut te déplacer pour aller dans notre hôtel, on ne te donne pas l'avertissement. Là, on a eu aussi vraiment, ils doivent signaler, ils doivent nous donner le temps, une semaine, voilà, écrite, Voilà, parce qu'avant, ça se faisait comme à la maison. Donc, bon, toi, tu te lèves, tu vas de l'autre côté. Mais là, maintenant, ça va se faire par écrit et avec une semaine d'avertissement. Voilà.
Enfin, de prévention.
Voilà, de prévention.
Un délai de prévenance d'une semaine. Et effectivement, les mutations ne se font plus comme ça, verbalement, comme elles se faisaient avant, mais par écrit. Et on a aussi obtenu quand même la restriction du périmètre de mutation possible à 15 km. Avec toujours quand même la recherche du rapprochement des salariés de leur lieu d'habitation. Parce qu'avant, effectivement, on avait des déplacements un peu partout, des mutations purement arbitraires pour des salariés qui, pour beaucoup, habitent quand même très très loin. On parle par exemple d'un certain nombre de femmes de chambre qui habitent en Normandie, d'autres qui habitent à Grigny. Donc, c'est pas non plus la porte à côté, en fait, de venir à l'Ibis des Batignolles. Et donc, voilà, effectivement, il y a tout un encadrement de la clause de mobilité qui a été obtenue, avec une restriction de la mobilité à 15 km et une recherche à chercher à rapprocher de plus en plus les femmes de chambre de leur lieu d'habitation.
Et l'interdiction des mutations pour les salariés en restriction médicale, ça c'est très important.
Ça, effectivement, ouais, voilà. Effectivement.
Et avec aussi un point très important, c'est qu'en cas de mutation, elles gardent les avantages négociés dans cet accord sur le nouveau site.
D'accord,
voilà, c'est important.
C'est un avantage personnel qui suivra le salarié. D'accord. D'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'effectivement, parce que les pratiques, ça, justement, j'allais poser la question, ce qui est intéressant, connaissant un peu le milieu dans le nettoyage, la pratique de la mutation ou de la vente de marché, c'est-à-dire qu'en fait, ils vendent tel marché, ils découpent, ils peuvent vendre tout un marché ou découper dans leur contrat les salariés dont ils veulent se débarrasser, parce qu'en fait, le transfert du marché entraîne le transfert des salariés, mais après, l'équipe suivante, enfin, l'équipe.
Le sous-traitant d'après,
il peut faire d'autres choix. Et c'est vrai que ça, c'est très important que cette clause-là puisse être transmise. Ça arrive souvent, ça, des clauses qui sont transmises aux salariés. C'est ça. D'accord.
Et ce qui a été aussi obtenu, et pour nous c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est des représentantes des salariés de la sous-traitance sur le site, à l'hôtel Ibis des Batignolles. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est une espèce de... Alors ça rentre pas du tout...
C'est pas un CSE.
C'est pas un CSE, non, c'est pas des représentants de proximité non plus, c'est vraiment des représentants de sites qui ont été obtenus, j'ai envie de dire, par accord, parce que maintenant, avec les ordonnances Macron, ils nous disent que tout est possible par accord.
Oui.
Donc, à partir du moment où tout est possible par accord, faut trouver un accord avantageux aux salariés.
C'est ça.
Et non l'inverse. Alors.
Et c'est surtout un pied de nez aux ordonnances Macron, parce que les ordonnances Macron, pour mémoire, ont supprimé l'éligibilité des salariés des sous-traitants chez les donneurs d'ordre,
ouais.
Alors que là, de fait, il y a une élection des salariés de la sous-traitance,
oui,
pour le site où elles travaillent.
Mais alors, c'est marrant parce que... Et après, on va revenir sur un peu ce que vous sentez comme différence. Je voudrais revenir là-dessus aussi. Mais d'abord, juste... Quand les ordonnances Macron sont sorties dans cette émission aussi, on avait fait peut-être l'hypothèse qu'on allait devoir redoubler d'inventivité parce que, comme tout était possible, évidemment, les patrons allaient essayer de tout imposer. Mais dans l'autre sens, rien n'empêchait. Et notamment, la représentation de proximité, elle n'a jamais été clairement définie. C'est un champ de bataille. Tout ce qu'on obtient sur la représentation de proximité, ça peut devenir le modèle du futur. Donc autant, quand on négocie et qu'on obtient des choses comme ça, il vaut mieux obtenir le maximum possible parce que c'est la suite qui sera...
C'est l'adage, ce qui n'est pas interdit peut être autorisé.
C'est ça, exactement. Donc, est-ce que vous avez obtenu ? En termes de... Alors, c'est coûteux, une grève comme ça. Vous avez, attendez, je me rappelle plus parce que les chiffres sont tellement astronomiques, à chaque fois ils me sortent de la tête. C'est combien de mois que vous
22 êtes... mois de grève. 22
non, mois
22
de grève.
Mois de lutte.
22 mois de lutte.
Voilà.
Oui.
Dans 8 mois de grève continue.
Dur. Voilà. Donc 8 mois de grève, on va dire total.
Total.
Voilà, c'est ça. D'accord. Plus alors après il y a eu les épisodes qui ont fait que oui, ok, ça marche très bien, je vois bien, mais par contre j'ai du mal à envisager en termes financiers, ça doit être dur.
Oui. Et non.
Ah ouais.
Vérité des chiffres, Sylvie.
Non, mais justement, si vous avez trouvé des moyens de vous en sortir, je pense que tout le public de RFPP veut les entendre. C'est-à-dire veut, parce que ça, il faut donner du courage aux gens qui vont partir en grève.
Oui.
Et si vous leur dites que vous avez trouvé des moyens pour tenir.
Oui.
Eh ben, je pense qu'ils veulent l'entendre, parce que ça va les encourager. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir en grève et ils se posent exactement cette question-là.
Allez. Excusez-moi. Est-ce que vous avez été soutenu par des élus, des syndicats dans votre lieu?
Oui, on était soutenu par des élus. Daniel Obono, il y a plusieurs responsabilités politiques qui nous ont soutenus. Il y a aussi les CRAC, il y a une association, les associations, les féministes, il y a plein de gens qui nous ont soutenus. Mais notre syndicat, la CGT-HPE, nous ont soutenus parce qu'ils avaient mis un point commun en ligne. Et il y avait aussi tout le temps, on faisait des caisses de grève. Et c'est par ça qu'on a survécu. Voilà. Et puis, ça, on nous donnait des chèques à la fin du mois par rapport au contrat qu'on avait. Donc, il y a ceux qui avaient 6 heures de contrat, ils avaient 800 euros. Et ceux qui avaient 7 heures de contrat, ils avaient 1000 euros. Ainsi de suite, ceux qui avaient moins de contrat, donc par rapport au contrat. Et c'est ça aussi qui nous a donné la force de beaucoup tenir. Alors, c'est pas le salaire, mais bon, c'est quand même voilà.
Alors en fait, faut savoir que effectivement sur la question de la caisse de grève, d'abord au début, donc le premier mois de la mobilisation, le syndicat, enfin. Effectivement, nous, on a mis en place un pot commun en ligne. Mais c'est vrai que nous, notre syndicat a une caisse de grève statutaire. C'est-à-dire que, en fait, avant de partir en grève, le syndicat a une caisse de grève avec un règlement intérieur qui permet déjà, en fait, d'une certaine manière, de partir un peu tranquillement, quoi. On se dit... En n'ayant pas ce problème financier extrêmement pesant, et en ayant justement au moins un mois d'avance quelque part pour essayer d'avoir d'autres modes de financement. Et donc c'est vrai que nous on donne 43 euros par jour grévé à partir du deuxième jour. Donc effectivement c'est ce qui a été fait. Donc le syndicat a effectivement sorti un chèque le premier mois. Et c'est vrai que pendant tout ce temps-là, nous on a effectivement mis en place une caisse de grève en ligne. On a contacté nous-mêmes en fait des organisations féministes, antiracistes, les organisations d'extrême gauche, etc., qui nous ont aussi aidés. Et donc pour donner un peu une idée sur les financements de ce qui a été récolté en fait dans le cadre de cette grève, parce que effectivement les salariés quand ils partent en grève, la question financière, elle est centrale. Elle est primordiale parce que voilà, tu peux faire grève et c'est justement là-dessus que les employeurs s'appuient pour essayer de faire le plus mal possible aux salariés. Donc nous, on a réussi à construire un tel rapport de force et de solidarité qu'on a récolté un peu plus de 280 000 euros. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'indemniser les camarades de femmes de chambre. Donc en fait, ce qui a été versé pour alors au début il y avait une trentaine de personnes en grève, ensuite on était 24 et puis on s'est retrouvés à partir du mois de janvier à 20, mais pendant 2020, oui. Ah, okay. Donc effectivement il y a on a sorti quelque chose comme un peu plus de 200 000 euros en termes de caisse de grève, en fait, ce qui a été versé aux grévistes. Puis après, en fait, il y a aussi tous les événements de solidarité qui ont été organisés. Il y a par exemple les différentes procédures, par exemple devant le tribunal de grande instance, quand on a été assigné par le groupe Accord, il a fallu payer des avocats. Quand il a fallu aller devant la cour d'appel contre l'avis, le déboutement du conseil de prud'homme, il fallait prendre un avocat, c'est aussi un moyen qui nous a permis de payer ça. Mettre en place aussi les procédures sur la discrimination sexiste et raciale. Donc oui, en fait, tous ces financements ont permis non seulement de tenir, d'indemniser les personnes, les copines en grève et en lutte après, mais aussi de mettre en place un ensemble d'actions et de pouvoir les financer. Parce que les actions, ça coûte. Et quand tu mets, effectivement, tu veux attaquer ton employeur face aux juridictions et qu'en plus, ta structure CGT t'a retiré tes mandats, il faut.
Peut-être qu'on va aborder ce sujet, effectivement, dans l'émission, si vous le souhaitez.
Je voulais revenir sur la signature du protocole. Donc c'était en
25 mai.
D'accord. Donc ok, très bien. Donc là, on est en juin. Donc vous n'avez pas encore touché votre. J'imagine que vous l'imaginez, votre futur bulletin de paye.
Oui.
Oui, c'est ça. Hein, vous voyez très bien.
On attend impatiemment.
Voilà, c'est ça. Alors voilà, justement, pour vous, voilà, vous avez fait un peu peut-être vos calculs en préalable. Vous avez gagné en gain. Vous avez gagné combien au mois, vous vous dites là. Mais vous attendez à ce qu'il soit gros de plus combien?
En fait, on a eu l'augmentation de 250 à 500 euros en fait.
Ouais. Par mois.
Selon les ajustements.
Selon les ajustements, ouais. Mm-hmm. Ça part de 250 à 500 euros par mois et selon les contrats en fait. Mm-hmm. Voilà, donc moi, j'imagine à 1500 euros.
Non, ouais. Peut-être plus. Oh. Ouais. Mais il y a les heures sup, là, il ne faut pas oublier.
Mais les heures sup, actuellement...
elles sont au chômage partiel.
Non, il y a les heures sup, parce qu'avant, on sortait à 18h, mais là, ça sera payé. On peut être peut-être à 1800, 2000 euros. Hein,
Chers auditeurs, on est en train de jouer à qui veut gagner des millions à l'hôtel Ibis de Batignolles.
Pour 3000, hein.
Ouais, moi aussi, si vous voulez, on peut... vous pensez qu'il est encore temps d'envoyer une lettre à Accor pour leur dire on veut 3000 pour les femmes?
Non, mais parce que dans ce métier, il y a du sous, il faut le dire, parce que l'hôtel Ibis Les Batignolles contient quand même 706 chambres et là, il y a trop de touristes qui viennent. C'est un hôtel qui est bien situé dans le 17e et c'est un hôtel qui est plein à craquer, à part le Covid qui est venu un peu... comme il va rendre bancal l'hôtel un peu, mais bon, après, ça va, en 2024, ça va. Donc, ils ont des sous. Donc, pour nous, 2000, normalement, c'est rien. Ça, c'est l'argent de monsieur le PDG Sébastien Bazet qui va manger dans un restaurant avec. Donc, voilà, s'il nous paye correctement, on peut même arriver à 3000 euros. Hein,
pourquoi pas. C'est le souhait.
C'est juste quelques restaurants, au moins, si j'ai bien calculé.
Très bien.
Non, j'ai juste une question,
vas-y.
Moi, j'avais une question à vous poser à propos des mutations, parce que ça m'a fait tilt tout à l'heure. Juste avant l'accord là, que vous avez gagné, quelle était la fréquence de vos mutations? Est-ce que vous changiez d'hôtel tous les jours, tous les deux jours, toutes les semaines? Comment ça marche?
En fait, les mutations, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date, il n'y a pas de... quand ils veulent quoi. Donc tu peux te lever matin, tu dis je vais dans mon travail au lieu d'habitude. Donc qu'est-ce qu'ils font au moment où tu es dans le train? Ils t'appellent pour dire aujourd'hui tu ne viens pas là, tu vas de l'autre côté. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ou bien tu arrives dans ton lieu de travail, tu mets ta tenue, tu commences à travailler. Quand il est midi, il y a la gouvernante qui t'interpelle pour dire arrête de travailler, tu dois aller dans un autre hôtel parce que c'est urgent, on a besoin des femmes de chambre. Donc, voilà, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, n'importe comment, n'importe quoi, sur leurs enfants, parce que nous sommes leurs enfants, comme ils le disent. Donc, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, quoi.
Je comprends la grève, alors, effectivement, c'est absolument scandaleux.
Oui, mais il fallait sortir, mais grâce à la CGTHPE, comme je dis. Parce que dans ce truc-là, quand tu n'as pas un bon syndicat, mais tu es mort... Voilà, tu es à la mort, quoi. Tu es dans le coffre de... C'est-à-dire dans le coffre de la mort. Tu es congelé, rempli de graisse avec le topsy. Mais quand tu es un bon syndicat, mais voilà, c'est-à-dire même... la mort ne vient pas, quoi. Donc,
un bon poteau, quoi.
Donc, franchement, avec un très bon syndicat, mais je pense que les salariés qui sont exploités, mais je pense que ça ne va pas continuer.
Très bien.
Tu voulais ajouter quelque chose à cette suite?
Non, enfin, si ce n'est que moi, je crois effectivement que la nécessité d'un syndicat pour épauler des luttes, c'est un corps dont on a besoin dans la société, effectivement, pour lutter, dans la mesure où le syndicat joue réellement son rôle. Mmh. Le syndicat.
Alors, c'est à moi de passer à confesse. Là, je suis désolé de devoir m'humilier devant tous les téléspectateurs, car j'avais prévu, en fait, de vous faire écouter des sons que j'ai oubliés chez moi. Voilà, l'oubli de son étant puni de licenciement à RFPP, parce que c'est intolérable, j'avoue, j'assume. Je pense que je ne serai pas là à la prochaine émission. Gilles, comme je t'avais dit, je te laisse faire la paperasse. Hein bon, voilà, donc, ce que je voulais aborder ce sujet-là, c'est parce qu'en fait, nous, à l'inspection du travail, il paraît qu'il y a des gens de l'inspection du travail dans cette pièce, donc bon, voilà, je le dis, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. On est en difficulté, nous, pour d'autres raisons. C'est qu'on nous demande pas de couvrir des chambres, mais des sections d'inspection. Wow. Voilà, on a une section d'inspection et ça, c'est une partie de commune. Et dans cette partie de commune, on doit essayer de faire en sorte que les droits des salariés soient respectés sur toute cette partie de commune. Le problème, c'est qu'on est un peu comme les femmes de ménage, en ce sens que bah, y a toujours une chambre qui est vide et qu'il faut aller nettoyer. Et ça, c'est on nous dit de faire l'intérim sur la section d'à côté.
Ouais.
Deux fois plus de salariés, hein, c'est 10 000 salariés par section. Et ça, on nous dit, bah, parce qu'en fait, il n'y a pas de recrutement et des sections restent vides. Ce qui était considéré comme intolérable il y a 10 ans à l'inspection du travail. On est un corps et on est supposé couvrir tout le territoire. Tout le monde est supposé avoir accès à notre service. Mmh. D'accord ? C'est logique.
Mmh.
Et donc, les sections ne peuvent pas être vides. Et donc, ils ont trouvé le système de l'intérim pour faire qu'ils respectent formellement leur logique de bah, « on couvre tout le territoire ». Vous voyez, il y a un nom d'agent d'inspection derrière chaque section. Vous voyez bien ? Sauf que la moitié des sections sont couvertes par des intérims. La raison pour laquelle j'avais préparé ces sons, c'est que nous avons fait une petite manifestation, nous aussi, de notre côté, le 3 juin, à l'inspection du travail de Seine-Saint-Denis. Et pour demander que... Mais derrière, on a fait une forme de grève à nous. On a refusé de couvrir et de faire les actes de procédure et les décisions pour toutes les sections vacantes qu'on nous mettait en intérim. Enfin, moi, je dis « on ». Je peux en parler parce que je ne suis pas dans ces services-là en ce moment, mais les camarades devaient faire un acte grave. Si vous voulez, c'est théoriquement c'est l'État, un agent de l'État qui refuse de couvrir un territoire qui lui est assigné. Donc c'est pas facile à faire. Et pour faire ça, ben on s'est mis ensemble. Les gens montaient toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, prenaient tous les dossiers qu'ils auraient dû faire et allaient les porter chez le grand chef départemental. Tout déposé sur la table à 15, à 20, d'accord. Et donc c'est à l'échelle, nous c'est voilà, c'est notre échelle. On peut pas faire plus grand. Voilà. Et nous aussi, on a mis du temps à aboutir à cette échelle-là. Et donc, le 3 juin, nous manifestions devant le ministère, enfin, le service, là où on sait qu'il y a le chef. Hein. D'ailleurs, le service caché derrière, administratif, où on sait qu'il y a le vrai chef, quoi. Donc, ça s'appelle la Direction Générale du Travail chez nous. Et donc.
Aubervilliers
Non.
Ah, oui,
on est allé à la Direction Travail du Travail, ah, oui. À Javel, au métro. Donc, c'est au ministère du Travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Direction Générale Technique du ministère du Travail, central. C'est ça, ouais. Et ben voilà. Et ben, on leur a demandé. De nous donner, s'il vous plaît, donnez-nous une chambre chacun. C'est l'équivalent, hein ? Ben oui, pour qu'on puisse bien, pour que celle-là, on puisse bien la couvrir, quoi. Ben oui. Et pas deux, trois et une de côté. Et puis quand il y en a un qui part en vacances, il nous donne les deux, trois qu'il a lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ben en fait, il faut arriver à me construire une détermination. Nous, ça fait 18 mois qu'on a ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pas une grève, mais c'est régulièrement, etc., que ça advient, et ça nous donne le courage et l'énergie pour aller porter devant le ministère nos revendications. Ce que je disais, voilà, c'était un peu, alors, évidemment, ça aurait été mieux si j'avais eu les interviews des camarades, bien sûr, mais bon, ça c'est ma faute, comme je vous le disais. Mais je voulais vous interpeller sur là-dessus, c'est, y compris dans des situations très différentes, il y a des mécanismes qui font qu'on se retrouve à lutter. Oui, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu, mais je pense que j'ai beaucoup trop parlé et que peut-être qu'il est le temps de mettre un petit peu de musique si vous avez l'envie d'écouter l'ambiance, on va dire, hein, du piquet de grève.
Ouais.
Comme ça, on va revivre un peu le moment où le patron tremblait dans son bureau. Comment je vais me sortir de cette situation ?
Le travail de milliers de femmes et d'hommes qui font le ménage en France n'est pas du tout valorisé. Et pourtant, sans eux, on vivrait dans la saleté. La saleté, saleté. Eh oui, une triste réalité. Ils ont frotté, lavé, désinfecté. Plus grave, ils se sont battus contre le Covid-19. Ils sont épuisés, vraiment fatigués. Dans l'hôtellerie, des cadences trop élevées. On leur demande plus de chambres qu'elles ne peuvent faire, sans même payer les heures supplémentaires. À femme de chambre, un métier très dur et physique, hein? Oh. Fais savoir, pas des menaces.
ménage. Les techniciens de surface se lèvent à 5 heures pour aller faire le ménage. Mais vois que certains ne les considèrent même pas. Pourtant, ce sont eux qui nettoient tous les bureaux, les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux.
Faut bien payer.
Cette chanson vous appartient. Ah ouais, c'est ça qu'est la vérité.
Syndiquez-vous, battez-vous, soutenez-nous et nous vous soutiendrons. Car nous sommes tous des frères et sœurs. À bientôt dans la lutte.
Les patrons, ce matin c'est à vous de nettoyer.
Avant.
Vous avez les serpillères, les brosses, l'aspirateur.
Voilà, voilà, voilà. Donc, ben oui, ben c'était un peu le thème de l'introduction que j'ai faite juste avant le morceau, c'est-à-dire que pour gagner, il faut mettre l'ambiance. Et l'ambiance, elle, quand on est tout seul devant sa difficulté particulière de son métier, elle peut être assez tendue. Alors, comment est-ce que justement on fait monter un peu la sauce ? Et là, on voulait revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que c'est quoi les étapes du j'en ai marre dans mon coin, mais je le dis à personne, hein, on en a tous marre ensemble et on débraye.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, avec la sous-traitance, comme on dit, sous-traitance, maltraitance, ça existe dans l'hôtellerie, et surtout avec la sous-traitance. En fait, depuis que STN est arrivé, STN a pris le site, mais nos conditions de travail étaient encore plus dégradées. Donc, il y a eu plus de malades, les femmes de chambre, on était entre nous et gouvernantes, on essayait de murmurer. Quand on veut parler, on partait voir, on rentrait dans la chambre de chaque femme de chambre qui travaillait pour leur dire... là, en ce moment, on est à trop décadence, 30 chambres, 40 chambres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le moment, il faut sortir. Il y a d'autres qui avaient peur de pouvoir commencer une grève. Il y a d'autres qui disaient, comme on était avec la CGT propriété, la CGT, comme je peux dire, des mafieux de la STN, on était avec eux qui faisaient rien du tout. On partait leur dire nos conditions de travail, mais qui nous disaient, oui, attendons, on va voir avec... le responsable de la STN, on va vous trouver des solutions et rien. Donc, les femmes faisaient quoi? On se concertait entre nous. Déjà, on partait au cinquième. On parlait doucement parce que souvent, quand on se réunit comme ça au cinquième étage, ils viennent écouter à la porte. Ils viennent écouter à la porte. Donc, ils viennent nous espionner pour voir qu'est-ce qu'on se dit. Et là, on s'est dit, bon, dans ce cas, on s'est désigné. Il y avait Sylvie, Traoré Aboubaka et moi. On partait maintenant vers chaque femme. Quand elle rentre dans la chambre pour travailler, on rentrait. C'est comme on voulait l'aider et tout. Et on entamait la position de comment on allait faire pour aller en grève. Nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête cette situation. Mais comment on allait faire? D'autres disaient, non, moi, j'ai mes enfants, je ne peux pas. Non, est-ce qu'ils ne vont pas nous licencier? On se posait tout ce tas de questions. Mais bon, quand... Traoré Aboubaka m'a appelé. Moi, j'étais en incident de travail. Et quand il m'a appelé pour dire, enfin, on a eu un bon syndicat. Et moi, j'ai douté. J'ai dit, mais un bon syndicat? Quel syndicat encore? Il me dit, la CGT propriété. Il dit, encore la CGT? On n'a même pas encore fini la CGT propriété. Tu nous ramènes quoi encore? Il me dit, non, c'est un bon syndicat. Le monsieur s'appelle...
La CGT Claude HPE. Lévy. HPE.
CGT HPE. Non, le monsieur, il s'appelle Claude Lévy. On m'a dit, il est très bon. Et là, tout de suite, j'ai arrêté mon accident de travail. Et le médecin ne voulait pas. Je lui disais, non, ça va aller, je vais aller essayer, tout ça. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Et on allait voir M. Claude Lévy à, dans son bureau à la mairie de Clichy. Et on a vraiment exposé nos conditions de travail qui étaient vraiment très, très, très pires.
Alors, justement, Claude, c'est quoi le réflexe quand tu es salarié dans une entreprise que tu ne connais pas encore, qui se pose ce genre de questions, qui prennent contact, qui vont... donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut expliquer en premier pour rassurer, pour former un minimum, etc.
Les deux premières choses qu'on a expliquées, c'est que dans notre syndicat, c'est parfois décrit à l'intérieur de la CGT, on demande aux salariés qu'il y ait au moins 50% de syndiqués sur le site avant de démarrer une grève, parce qu'on considère que le fait de se syndiquer, c'est déjà le premier pas pour un engagement. Et par expérience, je prends ma retraite ces prochains mois, et par ailleurs, ça fait 35 ans que j'anime un peu ce secteur. Pour qu'une grève réussisse, il faut que les gens aient fait le pas de se syndiquer. Parce que c'est la première brique de l'engagement, j'irais, syndical. Et voilà, nous, c'est notre principe. À moins de 50% de syndiqués, on ne démarre pas une grève. Voilà, là. Certains nous traitent de stalle, de tout ce qu'on voudra. En attendant, on a fait la preuve par notre efficacité que ça participe effectivement de la réussite de nos grèves.
On n'a jamais perdu de grève.
Voilà, par exemple, on peut le dire.
Ça, c'est dit.
Voilà, et on a obtenu dans 16 hôtels la fin de la sous-traitance et l'internalisation, l'embauche directe.
17.
Non, ça fait 16, je crois.
Non, 17.
Pourquoi? Oui. On était à 15, bah, plus Ibis Clichy, ça fait 16. Bon, 16 ou 17, peu importe. On refera les comptes.
Allez,
bon, bref.
Non, mais de toute façon,
donc voilà,
pas,
c'est le premier, la première chose, si tu veux, pour la réussite de la grève. 50% de syndiqués. Deuxième étape, on explique clairement, mais là, on n'a pas eu beaucoup d'explications à donner, qu'il y a plusieurs CGT. Et j'en profite pour dire que si ce conflit a duré 22 mois, c'est tout autant en raison du patronat que de la bureaucratie syndicale. On y reviendra peut-être. Il y a plusieurs CGT, notamment la CGT Propreté, qui est une mafia organisée au service du patronat pour casser les grèves. Et les salariés, ils étaient avertis. Et chaque fois qu'on démarre un conflit, on leur dit, écoutez, ne vous étonnez pas. Il y a des gens qui vont venir, qui se revendiquent de la CGT, qui vont venir vous faire pression en disant, on va tout régler, et qui ne règlent jamais rien, et qui vont vous demander de reprendre le travail. C'est malheureusement...
Juste, vous les aviez rencontrés déjà ou
oui,
vous
aviez parlé des syndicats elles-mêmes.
C'était notre syndicat.
Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu avec elle beaucoup d'explications à donner, contrairement à d'autres sites où la CGT Propreté ne sévissait pas et où c'est pas toujours évident d'expliquer qu'on n'est pas la même CGT. Bien. Donc voilà, on fait ce travail pédagogique pour dire ne vous étonnez pas s'il y a des délégués CGT qui viennent dire l'inverse de ce qu'on dit et qui vont venir pour casser cette grève. Et troisième chose qu'on leur a dit. On a l'expérience du groupe Accor, ils sont très très durs, donc on ne part pas en grève pour une semaine ou pour 10 jours, on risque de partir en grève pour plusieurs mois. Donc on a été cash dès le début, on les a rassurés avec notre caisse de grève statutaire pour leur dire « ne vous inquiétez pas, on a aussi de l'expérience et on va pouvoir financer le début de la grève et ensuite lancer les caisses de grève en ligne ». Et une de nos marques également de fabrique, qu'on retrouve malheureusement rarement dans nos organisations CGT, c'est qu'on travaille avec tout le monde, bon, on exclut bien évidemment l'extrême droite, mais à la limite, non, c'est pas vrai. Non, Tiziri. On a eu des cas où on a été soutenu par des maires de droite dans des conflits. Le conflit de l'hôtel Holiday Inn à Clichy, il a été voté une subvention à la mairie de Clichy pour payer les amendes que nous avait mis la police nationale. Et d'ailleurs, la commissaire
ça, c'est
de
fortiche,
Clichy,
ça.
Ah oui, c'est fortiche. Sur un vœu qui avait été déposé par un élu communiste, le maire n'a pas pu faire autrement que, effectivement, de voter une délibération pour nous permettre de payer les amendes qui avaient été mises par la police nationale, ce qui a rendu d'ailleurs furieuse la commissaire de Clichy, qui a dit, moi, je mets plus d'amendes puisque, de toute façon, la mairie vous les paye.
Et c'était réglé.
Donc voilà. Donc, faut jouer. Et c'est arrivé. Donc, faut jouer y compris avec ça. Donc, je le redis parce qu'on trouve, et c'est aussi, le résultat de ma longue expérience syndicale, on trouve des gens de bonne volonté partout.
C'est possible.
À l'exception, bien évidemment, de l'extrême droite et des cons, parce qu'il y en a beaucoup sur Terre, mais bon, voilà. Donc, on travaille avec tout le monde, avec les partis politiques, avec les collectifs, avec les féministes, avec les écologistes, avec les antiracistes, etc. Et ça, c'est peu pratiqué dans la CGT. Et ça explique aussi que les gens qui veulent soutenir une grève, quand ils voient qu'ils n'ont pas affaire à des staliniens qui leur disent « Oh là là, venez pas par ici, ici c'est CGT et PCF, donc on n'a pas besoin de vous », quand ils voient qu'on est ouvert à la discussion, à trouver des solutions concrètes dans l'intérêt des grévistes, ben, je peux te le dire par expérience, ça renforce sérieusement la grève. Mmh. Et on n'a plus de facilité pour alimenter les caisses de grève en ligne, etc. Donc ça, c'est aussi un point très, très important. Et je le dis ici, j'en rends hommage au syndicat Sud Rail de Saint-Lazare, qui nous a hébergés dans ses locaux pendant la totalité de la grève. Parce qu'ils étaient à 200 mètres de l'hôtel Ibis Batignolles. Aujourd'hui encore, ils nous prêtent leur salle pour nous réunir quand on a besoin de faire le point. Voilà, donc on est tous sauf des sectaires, et on travaille avec toutes les personnes de bonne volonté. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu tabou à la CGT, comme beaucoup d'autres pratiques qu'on peut avoir.
Alors, j'ai une remarque et deux questions pour les camarades. Alors, la remarque, c'est que moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans une autre vie animateur de piquets de grève dans le nettoyage, mais on en reparlera une autre fois. Ouais. On a été soutenu par le maire qui nous a mis à disposition des repas de cantine, aux dispositions du piquet. Et quelque chose de très important, les vestiaires du gymnase pour que les grévistes puissent prendre leur douche, laver leurs affaires, etc. Et le type était à Debout la République.
Oui, non, mais c'est ça.
Qui est aujourd'hui Debout la France, de Pont-Aignan, quoi.
Pont-Aignan, ouais. Ouais, mais
et pour des motifs, d'espèce de motif, soit de mélange d'indignation, de discours sur, bah, vous voyez bien, l'immigration, ça donne des tragédies, mais nous, on est du côté quand même des victimes. Enfin, tout un. Alors, je ne peux pas reconstruire son discours parce que c'est pas le mien, quoi, mais il avait trouvé moyen de pour lui-même et
à
devant sa commune.
À l'Ulidaline, on a joué un peu sur des divergences entre le maire qui était LR et la députée de la circonscription qui était Macron, enfin la République en marche.
Ah, voilà.
Et donc, en fait, comme on a été reçu d'abord par la députée qui nous a littéralement envoyé chier, en fait, le maire voulait aussi nous recevoir. Sauf que moi, je me rappelle, parce que j'étais là dans la délégation au début, il me disait, mais comment elle vous a reçu? Oh là là, mais c'est des gens qui connaissent pas le terrain. Voilà, faut quand même de l'humain, on peut pas exploiter les gens comme ça. Donc c'est vrai qu'on a joué aussi pas mal sur les rivalités entre ces groupes concurrents politiquement.
Faut toujours faire ça.
Le diable et sa grand-mère.
C'est ça. Voilà, et ben justement, donc vous avez... Donc vous êtes allé... Certains d'entre vous sont allés voir donc la CGT-HPE, donc ont eu ces informations-là, donc il y avait un choix à faire, et notamment il y avait quand même, bon, il y avait une condition qui était posée par la CGT-HPE, c'est 50%.
Oui.
Donc l'étape suivante, j'imagine, c'est de convaincre 50% des femmes de chambre de ce syndiquer. Alors il faut, c'est du travail, ça.
Oui, mais en fait les femmes de chambre, en fait chez nous à Ibis des Batignolles, les femmes de chambre, en fait elles ont déjà l'habitude de se syndiquer. Voilà, et là, elles étaient déjà dans un syndicat qui est la CGT Propriété. Parce que en fait, il y avait des gens qui étaient à la CGT Propriété, il y avait les gens qui étaient à IFO, il y avait les gens qui étaient à la CGT, à la CFDT.
D'accord.
Donc, c'est un site, en fait, les femmes, il y a tout le monde est syndicat, en fait.
Il y a une tradition de syndicalisation.
D'accord. Les clientélistes.
Voilà, ça nous on l'avait déjà compris bien avant.
D'accord.
Et voilà, sauf que il y avait eu un problème quand ils entendaient la CGT Propriété et la CGT HPE, ils se disaient mais c'est quoi ça aussi? On va à la CGT, on retourne à la CGT, parce qu'en fait nous on a contourné, on a pris la CGT Propriété par le dos.
Ouais.
Parce que on était syndiqué à la CGT Propriété et d'accord. Tout d'un coup la CGT voit le drapeau de la CGT HPE. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, quand nous sommes allés, et quand on a dit aux filles que non, on va changer, on a eu un bon syndicat. C'est un collègue de Traoré qui lui a filé les coordonnées que je connais.
Quelqu'un de faux pour la petite histoire.
Okay. Voilà, quelqu'un de faux qui a dit, je connais ce syndicat, c'est un bon syndicat, prenez le numéro, appelez-le, il va vous bien recevoir. Et c'est ce qu'on a fait. Et quand on est venu aux filles, on a dit aux filles, écoutez, on a eu un bon syndicat, vraiment ça, c'est le meilleur.
Okay.
Ah mais oui, mais vous dites toujours comme ça, c'est le meilleur. Regardez ce que vous avez fait avec la CGT Propriété. Nous, on a dit non, syndiquez-vous. Et vraiment, les filles n'hésitent pas. De ce côté-là, quand il s'agit d'accord. De leurs droits,
okay.
Même que ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils se syndiquent.
D'accord.
Donc, on a pris les RIB, tu amènes les RIB, on écrit le nom, on écrit le nom.
Ouais.
Mais aussi, ils avaient confiance en nous aussi.
Voilà, parce qu'aussi, ils avaient confiance en nous, parce qu'ils savent que nous, quand on se lève, on fait toujours des bonnes actions.
D'accord.
Voilà.
Ça fait depuis combien, ça faisait combien de temps avant l'entrée en... Enfin, avant la bascule vers la CGT-HPE que vous aviez l'habitude de représenter, mais, défendre les salariés?
Mais déjà, on dit que, on peut dire que déjà la CGT, si on prend la CGT propriété, ça fait 10 ans qu'il est dans le site.
Oui, ok.
Donc, des gens, on peut dire que ça fait plus de 10 ans, il y a d'autres personnes qui se sont syndiquées, parce qu'avant la CGT propriété, il y avait EFO. Mm. Tout le monde était syndiqué à EFO.
D'accord.
EFO, après, il y a d'autres qui étaient restés à EFO, il y a d'autres qui sont partis à la CGT propriété. Mais la CGT propriété a fait 10 ans.
D'accord.
Jusqu'au moment où, en mai 2019, je crois, on est parti à la CGT propriété, à la CGT HPE.
Ok.
Et c'est là où on s'est syndiqué. En mai, en juillet, nous sommes allés en grève. Il nous a tellement rassurés que ça n'a pas pris du temps.
Oui, mais d'accord. C'est vrai qu'il y avait aussi un peu une urgence à l'hôtel Ibis, parce que 13 salariés qui étaient en restriction médicale ont été menacés en fait, de mutation.
D'accord.
Donc STN avait convoqué pas mal de salariés. Donc c'est vrai que pour le coup, effectivement, elles ont décidé de prendre leur carte à l'avance, etc. Mais au mois de juillet, on a été pris de court d'une certaine manière par la direction qui voulait les muter des salariés. Donc et d'ailleurs je tiens à préciser que ces dernières années la question des mutations arbitraires devient de plus en plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est vraiment un des éléments déclencheurs des mobilisations. C'est exactement le cas qu'on a eu à l'Holiday Inn de Clichy, où pareil, la grève était partie parce que la direction avait décidé de muter deux salariés, une gouvernante et deux gouvernantes, dont une était
en
d'ailleurs
restriction médicale,
en fait sur d'autres sites. Et c'est vrai que de plus en plus les salariés voient dans les mutations arbitraires, notamment pour des raisons de santé, un moyen que mettent en place leur direction pour se débarrasser d'elle. C'est-à-dire qu'on te met, toi tu es là sur le site depuis 10, 15 ans, peut-être parfois plus, et la direction décide de te muter suite à des restrictions médicales sur un site où tu connais personne, où il va y avoir 2, 3, 4 avertissements, et puis après c'est les licenciements.
Alors, je voudrais savoir.
Parce qu'elles ne connaissent personne sur ce site.
Excuse-moi, mais je voudrais savoir, pour l'auditeur et pour moi-même, parce que je ne sais pas ce que c'est exactement, qu'est-ce que la restriction médicale? C'est un mi-temps thérapeutique? C'est quoi exactement?
C'est le médecin du travail qui dit, par exemple, vous ne pouvez faire que 10 chambres au lieu de 20,
d'accord,
parce que vous êtes affaibli au niveau de votre santé.
Il faut savoir que beaucoup de femmes de chambre, en fait, ou des salariés, principalement des femmes de chambre, elles ont des problèmes de santé assez lourds. Moi, je le dis toujours, une femme de chambre, tu peux la distinguer parmi je ne sais combien d'autres salariés. Je veux dire, une femme de chambre qui est dans le secteur depuis des années, elle est marquée physiquement par le travail. C'est-à-dire, tu remarques ça au niveau des poignets, tu remarques ça au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du dos, au niveau des épaules. Tu le remarques, ça saute aux yeux. C'est vraiment quelque chose d'assez visuel, visible. En fait, le corps parle de sa souffrance, j'ai envie de dire. Et moi, j'oublierai jamais, par exemple, cette salariée. Il y avait une salariée qui était venue me voir, qui travaillait depuis des années, salariée cambodgienne, travaillait depuis des années dans un hôtel de luxe, et qui m'avait dit qu'elle s'est faite opérer à 2-3 reprises des épaules, et que en fait, mais je demandais, mais comment? Enfin, c'est quoi l'élément déclencheur? Comment ça s'est fait et tout? Et elle disait, mais en fait, moi, je travaillais pendant des années. Pendant les vacances, parce que c'est au moment où les gens sont en vacances que commençaient à sentir les douleurs. Parce que tant que le corps était chaud dans le travail, on ne sentait pas la douleur. Et c'est au moment où ça s'arrête, on arrête de travailler, que le corps commence à hurler. C'est pour ça qu'on parle souvent de douleur le soir. C'est quand le corps n'est plus en mouvement quelque part, il est en repos. Ouais. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que ses épaules, ses bras l'ont littéralement lâché un jour où elle avait des produits d'accueil dans un panier. Elle a pris le panier et le panier lui est tombé des mains. Et en fait, elle a été tout de suite prise à l'hôpital où elle devait être opérée assez rapidement des épaules. Parce que en fait, il y avait plus de cartilage enfin, de, au niveau des épaules. Et donc, elle ne pouvait plus. C'est pour ça que, par exemple, souvent, on se retrouve avec des femmes de chambre en restriction médicale, par exemple, où elles vont pas faire, on va le dire, il faut pas qu'elles fassent plus de 10 chambres par jour, ou dans les hôtels économiques, ou par exemple, il faut pas qu'elles portent plus de 3 kilos. Elles ne peuvent pas porter plus de 3 kilos. Par exemple.
Et ça pose aussi des problèmes de posture, certainement des scolios, genre de choses, j'imagine.
Tout à fait.
Alors, il y a aussi pourquoi les mutations sont un élément déclencheur, parce que même si le travail est pénible, quand tu as créé un collectif de travail, qu'effectivement tu as l'habitude de revoir les mêmes personnes, qu'un espèce de collectif s'est créé, tu vis très mal le fait de quitter ce collectif, parce que quelque part, j'irais le collectif te protège. Et donc, quand effectivement on veut muter un certain nombre de personnes d'un site, ben c'est briser le collectif. Et ça, les salariés l'acceptent effectivement difficilement, même si par ailleurs, leurs conditions de travail sont difficiles. Et je dis ça pour arriver en fait à gérer un petit peu le combat phare qu'on mène dans notre organisation syndicale, à la CGT-HPE, c'est la question de la reconstitution de la communauté de travail. Mmh. C'est-à-dire à partir du collectif qui existe, on revendique le fait que quand on travaille sur un même endroit, on doit avoir une même convention collective et un même patron. Et donc, on se bat pour la et un même statut, voilà, une même convention collective, un même statut. C'est pour ça qu'on se bat pour la reconstitution de la communauté de travail et pour l'internalisation des salariés de la sous-traitance. Surtout que dans l'hôtellerie, on est à l'hébergement, les femmes de chambre, les gouvernantes, c'est le cœur de métier de l'hôtellerie. Sans les femmes de chambre, sans les gouvernantes, ben l'hôtel y ferme, puisqu'on est, les chambres ne sont pas nettoyées, et donc voilà, il peut pas fonctionner. Voilà, c'est notre combat important à la CGT-HPE depuis des années.
Eh ben, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que tu as oublié de dire quelque chose. C'est pas que le combat important de la CGT-HPE depuis des années, c'est vous obtenez des réintégrations. Non, mais c'est tout à fait la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que le combat pour contrôler l'embauche et contrôler l'allocation des salariés est un combat essentiel qui semble impossible à gagner dans la mesure où c'est le capital et les capitalistes qui est les patrons donc qui ont la maîtrise de l'organisation du travail théoriquement. Or donc dans les règles selon les règles du système, il n'y a pas moyen qu'on obtienne un droit de regard justement sur les mutations, sur les statuts de salaire et sur la sous-traitance. Ce sont des éléments qui...
Les choix économiques de l'entreprise.
Ben voilà. Et nous-mêmes...
La liberté d'entreprendre.
Ben bien sûr. Mais non, je vous dis ça parce que dans un corps comme l'inspection du travail, on a un certain nombre de pouvoirs. Mais là, justement, ce qui est très intéressant, c'est que ça s'arrête sur justement ce type de décision. Nous n'avons pas la capacité de critiquer ou de stopper les mutations décidées par l'employeur. Donc l'organisation du travail, y compris son choix de sous-traitant, c'est très difficile à contrer. Même quand il y a des pouvoirs publics qui cherchent à mettre une certaine mesure là-dessus. Donc on se dit, bon, voilà, c'est acté, c'est un pouvoir suprême de l'employeur, il n'y a rien qui peut aller contre. Ouais. Mais si, puisque vous le faites. Bah oui. Ouais,
mais parce que, en fait, il y a aussi quelque chose qui me semble très important, c'est que, comme le disait Claude, nous, on se bat pour effectivement la reconstitution de la communauté de travail sur des bases. Enfin, là, pour le coup, j'ai envie de dire, il faut être matérialiste, en fait. Ça ne s'obtient pas uniquement sur la base de conviction des salariés. Ça s'obtient par la lutte, mais par aussi une réflexion autour de l'organisation du travail. C'est-à-dire que nous, concrètement, ce qu'on s'est dit, c'est que il y a un ensemble de salariés qui travaillent sur un même site, qui sont divisés entre salariés internes, salariés de la sous-traitance, des CDD, des intérimaires, parfois plusieurs entreprises de sous-traitance aussi. Et donc, les salariés travaillent tous pour un même employeur, mais vont avoir tous des statuts différents. Donc, concrètement, tu rends quasi impossible les possibilités même de convergence. Parce qu'un salarié qui a un 13e mois ne va pas se battre avec un salarié qui n'en a pas. Ou pour les grèves de solidarité, c'est cool, mais enfin, c'est très limité. Il faut que le salarié, quelque part, trouve son compte dans la table des revendications s'il veut réellement se mobiliser. C'est un peu tout ça que nous on essaye un peu de construire et nous ce qu'on dit, alors on dit deux choses principalement, c'est que un Le sous-traitant est lié par un contrat commercial au donneur d'ordre qui est le réel employeur, mmh. qui est celui qui décide mmh. que sans lui, eh bien, en fait, que si le donneur d'ordre ne met pas de l'argent dans le contrat commercial, le sous-traitant ne va jamais accéder aux revendications des salariés et qu'il faut s'attaquer non pas simplement au sous-traitant, mais à la sous-traitance. C'est-à-dire que, en fait, comprendre que le problème, c'est le dumping social généré par la sous-traitance. Et donc, à partir de là, on discute avec les salariés, parce que quand on part avec les salariés de leurs revendications, on part souvent avec des revendications un peu minimes. Et donc, le travail du syndicat, c'est aussi d'essayer d'être un peu maximaliste, quoi, en fait, je veux dire, dans les revendications, de faire réellement changer les choses. Et donc, à partir du moment où on intervient, on essaye effectivement de porter les questions de l'internalisation, les questions de l'égalité du statut, effectivement, un certain nombre de choses qui sont pas évidentes à première vue, enfin, je veux dire, comme ça, par les salariés. Et donc, quelque part, on s'attaque aux raisons même de la sous-traitance, c'est-à-dire le dumping social.
Oui.
Et donc, quelque part, quand on en gagne, comme c'était le cas à l'hôtel Ibis des Batignolles, c'est-à-dire obtenir l'égalité de traitement, on rend caduque la sous-traitance. Elle est inintéressante du point de vue économique.
C'est ça, exactement. Parce que justement, le but de la sous-traitance, c'est de créer la distinction. C'est de créer la distinction entre les salariés et de permettre que certains soient moins bien payés que l'autre. C'est ça, c'est le.
Ça peut être aussi une raison de division du travail.
Bien sûr.
Par exemple, au Hayat Vendôme, à force de lutte, les salariés de la sous-traitance ont un meilleur statut social que les salariés internes. Mais pour des raisons idéologiques, Hayat refuse de les internaliser. Parce qu'il veut maintenir cette division artificielle du travail pour ne pas qu'il y ait justement de convergence.
Oui, mais en plus, oui, bah bien sûr. Voilà. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle c'est plus cher, c'est que maintenant, le surcoût dû à la sous-traitance...
Non, c'est les luttes. Les luttes ont permis d'élever les salaires.
Ce que je veux dire, c'est que s'ils les intègrent, ils ne paieraient plus le surcoût de la sous-traitance. Mais est-ce qu'ils auraient il y a des avantages que les gens de la sous-traitance ont gagnés à Hayat qu'ils ne voudraient pas avoir appliqué dans tout le Hayat?
Aussi, bien sûr. Ah, bien sûr, il y a ça plus. Aussi. On est sur l'égalité de traitement à revers.
À revers, oui, bien sûr. Ben voilà. Oui. Ok, j'ai compris.
Vas-y. Excusez-moi. Moi, j'ai une question. C'est à partir du moment où la grève a commencé, est-ce que le syndicat CGT Propreté a tenté faire de la pression sur vous? Est-ce qu'il y a eu de leur côté éventuellement avec le patronat le vouloir embaucher des gens qui ont besoin de travailler, bien sûr, des gens comme vous qui ont besoin de travailler, de nourrir leurs enfants? Pour ce qu'on appelle des jaunes, en fait, des gens qui travaillent quand même quand les gens sont en grève. Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses qui s'est passé au démarrage de la grève, on va dire? Ou juste un peu après, peut-être?
Mais la CGT Propriété, comme on a toujours dénoncé, c'est des briseurs de grève parce qu'ils reçoivent des chèques pour ça. Leurs locaux sont nettoyés pour ça. Ils sont là pour briser les grèves, pour enfoncer les salariés, pour être en complicité avec la sous-traitance, le groupe Accor. Je ne sais pas pourquoi ce syndicaliste existe, pourquoi ils ont des locaux. Mais bon, bref, on n'a pas de réponse, mais bon. C'est un syndicat même qui appelait les maris des grévistes chez eux à domicile et que les maris interdisaient leurs femmes de venir faire la grève, c'est-à-dire de laisser leurs femmes aller chercher leurs droits. Et ils insultaient même... nos syndicats, c'est-à-dire la CGT HPE Tiziri, Kandi, qui la traitait de pute parce que pourquoi la CGT HPE nous aidait à pouvoir avoir nos droits. Donc, je ne sais pas, mais ce syndicaliste-là, je ne sais pas quel mot je peux dire, mais c'est vraiment des cons, excusez-moi du terme. C'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça que moi je les décris. Ils ont voulu nous enfoncer dans un trou, mais on leur a tenu tête. Ils ont tout mis en place. Ils ont quand même, on était 34, ils ont quand même pris 14 personnes et on est resté 20. Mais on leur a tenu tête et ils connaissent maintenant notre puissance. Ils savent qu'ils n'ont plus le droit de venir faire n'importe quoi sur notre site.
Je pense que la prochaine grève, on leur cassera les pieds, littéralement.
Non, ils ne vont même pas venir. Hein. Ils auront, parce qu'ils nous connaissent, ils savent.
Ce qui est triste notamment, c'est que malheureusement, la direction confédérale connaît parfaitement cette situation. Moi, ça fait 35 ans, depuis que je suis rentré à la CGT en 86, que je me bats contre cette situation invraisemblable où la CGT tolère en son sein des mafieux. Et y compris Philippe Martinez, qui a été interpellé une dizaine de fois, tant par Tiziri, qui a reçu les grévistes, ok, et qui n'est pas intervenu pour effectivement mettre fin à ce cinéma, et également, ne serait-ce que pour venir soutenir une fois en 22 mois les grévistes sur le piquet de grève. C'est la honte de la CGT, quoi.
Il y a à la fois Martinez, mais en fait, tous les membres de la Confédération, alors qu'on leur a dit clairement que, voilà, on paye nos timbres comme tous les adhérents de la CGT. Mais c'est quand même... Enfin, moi, j'ai envie de dire, ça fait quand même un petit peu mal quand t'as des salariés, en fait, de certains secteurs qu'ils appellent stratégiques, qui partent en grève et t'as quasiment toute la conf qui débarque dès le lendemain de la grève sur les piquets. Tant mieux pour les camarades, hein. Je veux dire, c'est pas jalouser nos camarades que de dire ça. Et que toi, tu te bats, t'es sur un piquet depuis 8 mois, parfois même, enfin, nous, on a fait 22 mois avec des actions, etc. Et que t'as aucun membre de la Confédération qui vient sur ton piquet. Ça fait vraiment mal. Surtout qu'ils ont été interpellés. L'URIF CGT qui a arrêté de publier la moindre information sur la grève depuis le mois de novembre 2019. Alors que je leur avais fait des mails ont été adressés à Valérie Lesage pour dire ouais, peut-être que vous l'avez pas vu, peut-être que vous avez oublié, il y a une lutte, est-ce que vous pouvez relayer? Jamais de réponse, en fait. C'est très très méprisant, et ça dit quand même quelque chose aussi sur pour moi sur ce mépris qu'on a de ce nouveau salariat, parce qu'il y a quand même une tertiarisation de l'économie en France qui malheureusement sont pas pris en compte, quoi.
Bon, ben, ça, voilà, ben, finalement, on a eu une bonne discussion sur plein de sujets, qu'on a ouvert plein de portes, et comme d'habitude, on va en laisser un certain nombre ouvertes, ce qui veut dire que, ben, il va falloir vous réinviter, hein. Bon, c'est pas moi, hein, c'est vous, hein.
On va faire un rassemblement pour.
Parlons de la fête de
Oui, en fait, il y a une fête de la victoire.
Oui.
Voilà.
Ah.
Le lundi 28 juin à Jolimont, à partir de 16h, mais nous on sera là-bas à 14h, il y aura plein de nourriture, on invite tout le monde, de la bonne nourriture, du tchèp, voilà, il y aura toutes sortes de nourriture, mais les absents auront tort.
Voilà,
il faut venir, on va danser, on va manger, parce que on le mérite, c'est au théâtre de Jolimont.
Ouais, c'est la Belle Étoile.
Métro ligne 12, station Front Populaire, on vous attend.
C'est noté. Merci d'avoir transmis l'information et bravo pour votre victoire encore une fois et puis on vous réinvite à la prochaine. Allez, on vous réinvite à la prochaine victoire.
Yes. D'ailleurs, on a gagné une grève.
Juste derrière.
Oui, juste derrière, en fait, à l'Ibis de Clichy après une journée de grève.
Ok. Ceci sera le thème de la prochaine émission.
Ah, c'était bien, c'était bien.
Accordé au courant si on travaille pour toi. Pas besoin de sous-traitants, suffit d'un vrai contrat. Un salaire décent et pour toutes les mêmes droits.
Est-ce que tu nous entends? Jusqu'au bout on ira.
Et mal au dos, trois chambres et demi c'est trop. Et mal au dos, on se tue au boulot. Et mal aux pieds, debout toute la journée. Et mal aux pieds, maintenant faut payer.
Women on fire.
STN accord et rail.
Women on fire.
On rentre dans la bataille.
Women on fire.
Ils ne seront pas de taille.
Women on fire.
Na, 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 na. Quand des femmes galèrent.
Na, 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 na.
Restons solidaires.
Na, 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 na.
Unis et déterres.
Na, 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 na.
Lâche pas l'affaire.